Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce culte de ce matin et te prions de nous remplir de ton esprit afin que nous puissions voir le chemin devant nous et que nous puissions y marcher aisément. Merci, mon Dieu, d'enlever tous les cailloux, toutes les pierres, afin que chacun d'entre nous, chacun de ceux qui écoutent avec amour, puisse aller de l'avant dans la paix. Merci, Seigneur Jésus. Sois béni, mon Dieu, que les paroles que je vais annoncer de ta part puissent bénir et fortifier chacun de ceux qui sont animés d'un esprit de bonne volonté. Merci, Seigneur, mon Dieu. Amen. Amen. C'est dans le nom de Jésus. Amen. On va faire un chant. Qu'est-ce que nous chantons, Stéphane ? C'est le numéro 27. Jésus, tu es le centre de ma joie. C'est un vieux chant. Je pense que peut-être même vous qui êtes sur Internet, vous le connaissez. Jésus, tu es le centre de ma joie. Ce qui est bon et parfait vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, tout ce dont j'ai besoin. Jésus, tu es le centre de ma joie. Est en colère. Amen. Alléluia. Je voudrais dire bonjour à la famille Coléro qui n'a pas pu venir ce matin parce que vous avez vu, il y a 3 mètres de neige. Et puis Gilles et Esther aussi qui ont téléphoné, qui disent qu'ils ne peuvent pas. Mais c'est vrai que on est surpris par ici parce qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir la neige comme ça. Et les enfants sont ravis. Déjà ce matin, ils ont fait un bonhomme de neige. C'est bien, c'est bien. Eh bien, je vous invite à vous lever pour lire Matthieu chapitre 18, versets 1 à 6. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Amen. Que Dieu ajoute sa bénédiction à cette parole. Frères et sœurs, on est en plein hiver, hein, c'est vrai, c'est la neige. Les enfants font des bonhommes de neige. On devrait faire des bonhommes de neige. En Basse-Normandie, l'hiver, c'est pas aussi beau qu'à Gstaad. Je ne sais pas si vous savez, mais à Gstaad, ils n'enlèvent même pas la glace dans les rues et sur les trottoirs parce que c'est tellement beau. Ils laissent ça, alors ça brille. Et le soir, avec toutes les lumières, ça... C'est... Alors les gens sont au courant, ils sortent avec les chaussures qu'il faut afin de ne pas tomber, mais ils n'enlèvent pas la glace. Et c'est splendide. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Ça n'a rien à voir avec la boue qu'on a par ici. Parce que la neige, c'est bien joli, mais ça ne tient pas longtemps et ça devient vite de la boue. Ici, l'hiver, c'est gris, c'est pluvieux, c'est froid. Et l'hiver, il lutte pour continuer à régner en maître. Mais il sait, il doit reconnaître, il sait au fond de lui-même qu'à la fin, ben bon, le printemps va venir. Amen. Le diable aussi, il sait au fond de lui qu'il va devoir céder la place. Pour le moment, c'est lui le prince de ce monde, mais ça ne va pas durer toujours. Et on est bien content. Et les charnels aussi, ils le savent. Ils savent très bien qu'au fond de leur cœur, bon ben voilà, c'est un truc qu'ils ont, mais c'est pas, ça ne va pas demeurer éternellement. Il n'y a que les illuminés qui ne le savent pas. Les illuminés, l'hiver... Ils adorent ça, ils aiment aussi l'été, ils aiment tout. Alors, l'hiver, par exemple, ils adorent ça parce que ça leur permet de faire des glissades. Et je voudrais parler du mot glissade en théologie. Le mot glissade, j'ai appris ça quand je faisais mes études, le mot glissade en théologie, ça concerne l'homilétique, c'est-à-dire la science de la prédication. Alors, je vous donne un exemple, un pasteur ou un prophète qui dit quelque chose de faux, eh bien, ou quelque chose qui n'arrive pas, hop! Ah oui, oui, j'avais dit ça, mais en réalité, c'est pas ça que ça voulait dire, ça voulait dire autre chose, c'était au spirituel qu'il fallait le prendre, c'était pas... Hop, on appelle ça, en théologie, une glissade. Et on emploie donc ça pour désigner le revirement de ceux qui ne veulent pas admettre leur erreur théologique ou prophétique. Non, vous n'avez pas bien compris, en plus c'est nous qui ne sommes pas spirituels parce que c'est nous qui n'avons pas compris. En réalité, ça ne veut rien dire du tout. Mais bon, c'est des glissades, on appelle ça des glissades. Heureusement, les gens de foi, c'est-à-dire les gens établis sur la parole de Dieu, savent que ça ne marche pas comme ça. Il y a des règles. Partout, il y a des règles. Il y a un ordre parfait parce que Dieu est un Dieu d'ordre. L'hiver, le froid, la grisaille, la boue dans laquelle on patauge, tout ça, ça finira par céder la place au printemps, à des nouvelles feuilles bien fraîches, à des fleurs magnifiques et à la joie. Parce que quand il y a du soleil, c'est quand même toujours beaucoup mieux. À Gstaad, il fait du soleil, hein? Pas en Basse-Normandie. Alors, quel que soit ton hiver personnel, mon frère, ma sœur, toi qui nous écoutes sur le net ou toi qui es ici, quel que soit ton problème, souviens-toi de ça. Après l'hiver vient le printemps. Après la mort, c'est la résurrection. Tout est en mouvement, c'est ce que j'ai commencé à vous dire vendredi passé dans ma prédication. Et puis après, le printemps, ben, il y a l'été qui arrive, alors l'été, lui, il est convaincu sincèrement, que la chaleur est profitable à la terre et que ce qu'il apporte est donc le meilleur. Il en est convaincu sincèrement, mais il doit finir par accepter aussi l'arrivée de l'automne, parce que l'automne aussi elle est nécessaire, parce qu'elle permet à la terre de se reposer. C'est des cycles, vous voyez. Dieu fait bien les choses. Regardez nos belles vaches normandes. Hein, regardez comme elles sont belles, nos belles vaches normandes. Elles mangent de l'herbe, elles nous donnent du bon lait, des bons camemberts coulés à la louche, et puis beaucoup d'entre elles finissent dans nos assiettes, et c'est délicieux. Est-ce que ça a à voir avec la loi du plus fort? Non, ce n'est pas parce qu'elles finissent dans votre assiette que c'est nous qui sommes les plus forts. Ça n'a rien à voir avec la loi du plus fort. C'est simplement une indication de Dieu, quelque chose qui nous vient de Dieu. La Bible nous dit que quand on regarde dans la nature et qu'on se considère comment elle est faite, on peut y voir la main de Dieu et ses lois, ses règles et ses ordonnances. Eh bien, c'est une indication de Dieu qui nous montre qu'il y a un cycle de la vie et de la résurrection. Rien ne s'opère et tout se transforme. C'est quand même étonnant, c'est magnifique, c'est un plan extraordinaire. Ce sont donc des étapes qu'il faut respecter. Hein, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, les veaux, les vaches et les cochons, respectons. Respectons l'hiver, respectons le printemps, respectons l'été, respectons l'automne, respectons l'herbe, la vache, le lion qui dévore la gazelle, l'homme qui mange la vache et tout le reste, et puis aussi ceux qui n'en mangent pas. C'est bien dommage pour eux, mais c'est bien pour nous, comme ça on en a plus. Celui qui comprend ça, mes frères et sœurs, eh bien, il a tout compris. Il a compris la vérité. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de perdant. Il y a des cycles. Tout ici-bas tourne, nous dit Sylvie Vartan. Mais non, ce n'est pas vrai. Oui, elle le dit aussi, mais elle l'a piqué dans Ecclésiaste chapitre 1 pour faire une très belle chanson. Tout ici-bas tourne, tourne, tourne. C'est une belle chanson. Ecclésiaste 1, vous lirez ça chez vous. Tout ici-bas tourne. Ça ne reste jamais la même chose. Les uns et les autres, ben, nous passerons là où nous sommes assis ce matin. Il y avait d'autres choses avant. Il y avait d'autres gens. Il y a eu un temps où il n'y avait pas de bâtiment. Il y a eu un temps où il y en avait un autre qui a disparu. Puis comme il n'y avait pas de photos, ben, personne ne sait ce que c'était, comment c'était. Il n'y a même pas de gravure. Mais il y a eu, depuis que la Terre existe, cet endroit a existé. Hein, et c'est juste nous qui passons. Et est-ce que c'est grave? Non, ce n'est pas grave. Puisque nous allons vers Jésus qui nous prépare lui-même une demeure éternelle, celle-là. Amen, éternelle. Alors, gardons notre dignité, mes frères et sœurs. Gardons notre dignité. N'accusons personne des choses qui nous arrivent. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, puis ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Vous savez, j'ai 65 ans, jeudi prochain. Bon anniversaire, Michel. Je peux vous le dire, j'ai été aimé par beaucoup de monde. Je suis encore aimé par beaucoup de monde, mais j'ai été rejeté par quelques-uns. Et ça, ça m'affecte. Ça affecte tout le monde. Chaque personne qui est rejetée par quelqu'un d'autre est affectée, c'est normal. Mais qu'est-ce que moi j'en ai retiré? Eh bien, j'en ai retiré que personne n'a réussi à tuer ma faculté d'aimer. Ça, c'est formidable. Jamais personne n'a réussi. Ce n'est pas parce que quelqu'un tout d'un coup m'a haï, m'a fait des sales tours, m'a trompé, m'a trahi, etc. Ça n'a pas, on ne peut pas tuer ma faculté d'aimer. J'ai compris aussi que ce qui vaut dans l'amour, ça vaut aussi dans la guerre. Comme je vous ai dit, il y a des règles partout. Il y a des règles de guerre, il y a des règles dans l'amour. Quand on perd des amis, ou quand on perd des parents, ou quand on perd une bataille, ça nous cause des moments de douleur, de tristesse, de souffrance, c'est certain. Mais, comme tout passe, le temps passe et on découvre en soi-même, petit à petit, une force qui nous étonne. Alors, on regarde autour de nous, on se dit, waouh, j'ai encore survécu à ce truc-là. Ça m'est arrivé souvent et ça va m'arriver encore. Tant que je serai vivant, tant que vous serez vivant, tant que vous aurez la patience d'attendre que le temps change et que vous retrouviez cette force qui est en vous, parce qu'elle est en vous tous, en vous tous. Si vous ne trouvez pas cette force en vous, ce n'est pas parce qu'elle n'y est pas, c'est simplement parce que vous ne la recevez pas. Qu'est-ce que ça veut dire le mot recevoir? C'est ça qui est le problème. C'est dans le sens, si vous ne trouvez pas cette force qui est absolument en vous, c'est que vous ne l'accueillez pas. Le mot recevoir dans le sens de accueillir. Et j'en ai connu des gens comme ça, ils regardent autour d'eux et ils se disent j'ai tout perdu, et puis ils retournent à l'usine alors qu'ils étaient destinés à un ministère ou quelque chose. C'est dommage. Ou ils perdent un boulot, ils disent c'est fini, c'est tout perdu, puis ils se laissent glisser dans leur canapé, puis ils bouffent des chips en regardant la télévision, et puis ils remettent tout entre les mains de Dieu, hein, en pensant que Dieu va faire. Ouais, mais non, c'est pas comme ça. Cette force, Dieu l'a mise en vous, et c'est à vous de manifester cette force par votre foi votre détermination. Et avec cette force, la Bible nous dit que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous imaginons. Ce texte se trouve dans Éphésiens 3, 20. Alors, c'est pas nouveau, je vous l'ai déjà enseigné souvent, hein. Cette force, elle est en nous tous, en vous tous qui êtes en train d'écouter. Quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes venu écouter, cette force est en vous. Recevez-la, accueillez-la. Mais il y en a qui ne sont pas accueillants. Il y en a qui ne sont pas accueillants de nature. Je me rappelle, il y avait le... C'était dans... Je ne sais plus comment ça s'appelle cette émission, avec les guignols. C'est ça, les guignols. C'était l'époque, il y avait, je crois, c'était Juppé qui faisait toujours la tronche. Et puis, c'était Chirac qui se trouve en face de Juppé. Je lui dis, mais vous n'êtes pas accueillant, vous n'êtes pas sympathique, Juppé. Je lui dis, comment ça, je ne suis pas sympathique? Non, vous n'êtes pas sympathique. Tenez, essayez, dites-moi bonjour.
Bonjour.
Et Chirac lui envoie une gifle dans la tronche. Et Juppé dit, mais pourquoi vous m'avez giflé? Mais parce que vous m'avez insulté. Mais je ne vous ai pas insulté, je vous ai dit bonjour. Non. Ah, peut-être, enfin je sais pas, en tout cas j'ai pris ça comme une insulte. Tellement qu'il n'est pas accueillant, même quand il dit des choses agréables, ça passe pour une insulte. Ils ne sont pas accueillants. Et pour tout c'est comme ça. Ils ne sont pas accueillants pour tout. Des opportunités se trouvent devant eux, ils ne les saisissent pas, ils ne les prennent pas, ils ne les accueillent pas. Il faut toujours qu'ils retombent dans des trucs un petit peu nazes, enfin presque toujours, pas toujours. Mais par exemple, Dieu rétablit une ancienne pratique dans son Église, ben ils ne sont pas accueillants. Ils ne sont pas accueillants. Ils n'accueillent pas les bénédictions qui restent attachées aux pratiques qui étaient dans l'Église primitive. Ils ratent le coche tout le temps, ou presque. C'est difficile. Parce que ce qui est terrible, c'est qu'ils sont sincères. Ils sont sincères. Je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire, c'est le vieux Raphaël qui racontait, il disait qu'un jour il était... en train de pêcher des poissons dans une rivière avec son cousin. Son cousin était à peu près à 50 mètres, 60 mètres. Et le cousin, il ramassait rien du tout. Puis Raphaël, lui, il pêchait et toutes les deux minutes, il y avait un poisson. Et Raphaël, il dit, tu vois la différence entre un chrétien et un non-chrétien, hein? Espèce de païen. Moi, t'as vu, Dieu me bénit, je pêche des poissons. Ouais, ben ouais. Et tout à coup, il y a le garde-pêche qui arrive, il dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, ben voyez, je suis béni de Dieu, je pêche des poissons. Il dit, oui, mais vous êtes dans une réserve. Vous avez pas lu le panneau? Et Raphaël dit, ah ben pardon monsieur, bon, vous savez, je suis un gitan, je ne sais pas lire. Il était sincèrement dans l'erreur. Et il racontait souvent cette histoire pour dire, vous savez, les gens qui font des bêtises, la plupart du temps, ce n'est pas par méchanceté, c'est qu'ils sont sincèrement dans l'erreur. Alors voilà, ils sont sincères. Un peu comme les Français qui se sont mis du côté Pétain pendant la guerre. Ils étaient sincères. Ils n'ont pas dit, tiens, on va se mettre du côté du méchant. Ils n'ont pas pensé comme ça. Ils étaient sincères. Mais ils étaient sincèrement dans l'erreur. Ils se sont trompés. Et ça a eu des conséquences terribles. Ils se sont trompés et ça peut arriver à tout le monde. Mais une fois qu'on a goûté à la perte... Il reste encore la repentance, il y a la possibilité de s'humilier et d'accueillir la force que Dieu a placée en chacun de nous. Celui qui sait accueillir cette force et qui en a besoin parce qu'il a été blessé, il a aussi senti son cœur se serrer, il a aussi été dans le chagrin, il a aussi eu peur, il a aussi fait le bilan de sa vie, il a aussi découvert que malgré tout, la foi était encore en lui. Comme un lumignon qui fume peut-être, mais c'était encore là. Comme dans Matthieu 12, 20, c'est écrit le lumignon qui fume. Mes parents, quand ils ont construit la première maison en Suisse à Chèvres, ils voulaient l'appeler le lumignon, parce qu'ils trouvaient que c'était joli. Et puis ma mère faisait les plans, vous savez, c'était dans les années 50, c'était comme ça encore. On faisait les plans, puis après on donnait un architecte et il signait s'il trouvait que c'était bien. Alors ma mère avait fait les plans... Puis mon père a dit, on peut rajouter une chambre là, puis encore une autre. À la fin, ça ressemblait plus du tout à l'aluminium, c'était plutôt un énorme truc. Enfin, je crois que vous avez tous vu la villa là-bas en Suisse. C'était pas un aluminium, donc ils ont pas marqué mon aluminium sur la maison. Parce qu'un aluminium, c'est tout petit, puis ça n'a pas beaucoup d'apparence, puis ça fumote, tout ça. Mais la Bible nous dit que Jésus n'éteint jamais un aluminium qui fume. Doucement, il souffle sur lui pour que la flamme se ravive. Mais vous voyez, ce qui éteint le lumignon qui fume, parce qu'il y a des lumignons qui fument qui s'éteignent, même si Jésus essaye de souffler un petit peu dessus pour que ça se rallume. mais ça, il y en a qui s'éteignent. Et les lumignons qui fument, qui s'éteignent, c'est à cause de l'entêtement, c'est à cause des courroies, c'est à cause de l'orgueil, c'est à cause du fait de. C'est parce qu'on ne veut pas reconnaître qu'on s'est trompé ou qu'on a péché ou qu'on a fait une erreur. Ça, c'est embêtant. C'est embêtant. C'est embêtant. Alors, mon frère, ma sœur, si tu t'es trompé, si tu as péché et si tu te sens mal, tu es comme un soldat qui est blessé, qui est par terre. Eh bien, profites-en, profite du moment où tu es par terre pour te reposer un peu. Arrête tout, repose-toi un peu, prends du temps pour soigner tes blessures, pense un peu à toi, pense tes blessures, et puis découvre de nouvelles stratégies et décide de t'entourer mieux et d'écouter les conseils. Le pire, c'est pas de chuter. Le pire, c'est pas de se tromper. Le pire, c'est pas d'avoir fait une erreur. Le pire, c'est pas d'avoir péché. Ni d'avoir pris ses propres pensées pour les pensées de Dieu. C'est pas ça le pire. Le pire, c'est de s'entêter, de ne pas se relever et de s'accrocher au sol. Alors, dans l'amour, comme dans la guerre, seul est vaincu celui qui abandonne. Tous les autres sont des vainqueurs. En attendant, qu'est-ce que fait Dieu dans toute cette histoire? Ben, il ne dit rien. Il dit rien, il attend de l'humilité. Pas d'humilité, pas de chocolat. Pas d'humilité, pas de chocolat. J'en ai connu tellement des gens qui pensaient que Dieu leur parlait. Vous vous rappelez l'autre qui venait nous dire que Dieu lui parlait pour lui dire qu'il faut aller dans tel et tel endroit où marcher parce que là-bas les melons sont meilleurs que les autres. Vous vous rappelez Dominique, il se rappelle. Des gens qui ont dit des trucs incroyables. Ou alors, va dans tel magasin. Et c'est un monsieur qui était très gros, un frère. Hein, il prêchait l'évangile. Va dans tel magasin et entre, prends un habit taille 36 et rentre dans la. Comment on appelle ça? Dans la penderie, là. Et la cabine d'essayage et enfile le pantalon et au moment où tu l'enfileras par la foi tu maigriras d'un seul coup, hein? C'est une prophétesse qui l'avait dit. Alors il a cru, il est allé, tout le monde s'est foutu de lui dans le magasin et puis en plus lui il s'entêtait, il disait c'est Jésus, alors il essayait, puis au bout d'un moment ben, il est parti, honteux. Mais combien de gens, des trucs incroyables, je ne vais pas vous donner des noms ici parce que ça ne serait pas charitable. Mais je vous promets, depuis 68 que je fréquente les milieux charismatiques, mais j'en ai vu des centaines. Hein. Mon Dieu, quelle hécatombe! Quand Dieu parle, ce qu'il dit arrive. Toutes les prophéties qui ont été données au château, elles sont écrites dans un livre. Il est facile de savoir laquelle ne s'est pas accomplie. Et Dieu a besoin de personne pour que sa volonté soit faite. De personne. Et surtout pas de moi. Surtout pas de moi. Parce que si Paul était un avorton, quand il dit « je suis l'avorton », moi je suis encore moins. Alors il n'a vraiment pas besoin de moi, il peut faire sans moi. N'importe quoi, tout ce qu'il dit, il peut le faire. Alors aucune excuse, la prophétie était fausse. Bon, et alors? Ben alors, ça demande juste un peu d'humilité pour le reconnaître. Alors, ça laissera des cicatrices, c'est certain. Mais mes frères et sœurs, les cicatrices du soldat qui se relève, ces cicatrices-là, elles parlent plus fort que la lame du couteau qui a causé la cicatrice. Tout est sujet de joie pour celui qui est humble et qui sait reconnaître son erreur. Tout est sujet de joie. Il y a deux choses dont je vous parlais vendredi soir, c'était de la défaite et de l'échec. Mes frères et sœurs, si tu es dans la défaite, ta défaite, elle prendra fin quand tu t'engageras à être humble et à te mettre à livrer le combat utile, productif. C'est tout, c'est que ça. La défaite, c'est que ça, ça prend fin à ce moment-là, c'est tout. Par contre, l'échec, ça n'a pas de fin. L'échec, ça n'a pas de fin. Vous savez pourquoi? Parce que l'échec, c'est un choix de vie. C'est plus ou moins conscient. Mais c'est un choix de vie. La défaite, elle est pour les gens courageux. parce qu'eux seuls peuvent avoir l'honneur de perdre et la joie de gagner. Ceux qui sont jamais vaincus sont ceux qui n'ont jamais lutté. Ils ont su éviter les cicatrices, ils ont su éviter les humiliations, ils ont su éviter les sentiments d'abandon, ils disent avec fierté, mais moi, j'ai jamais perdu de bataille. Hier, je parlais avec Stéphane dans mon bureau, on parlait d'un frère, et ça fait, je crois, une dizaine d'années, ou 10-12 ans qu'on a repris contact avec ce frère. Pendant ces 10 ans, il a fait 2 fois faillite. On pourrait dire, mais il ne sait pas diriger ses affaires. Non, c'est pas ça. C'est la défaite, ça peut arriver à tout le monde. Se tromper, ça peut arriver à tout le monde. Être trompé, ça peut arriver à tout le monde. Mais cet homme se relève chaque fois. Et là, il est encore mieux qu'avant. Amen. Vous voyez, ça m'inspire, moi, des gens comme ça. Parce que ce qui tient pour la guerre, ce qui tient pour l'amour, ça tient aussi pour les affaires, ça tient aussi pour la vie de famille. Mais celui qui dit avec fierté, j'ai jamais perdu de bataille, il pourra jamais dire non plus, j'ai gagné une bataille, parce que il n'y a que ceux qui font quelque chose, qui se trompent, qui gagnent ou qui perdent. Mais ceux qui font jamais rien, ne peuvent pas se tromper. Ce genre de personnes qui vivent dans une espèce d'univers, c'est juste eux, quoi, c'est... voilà, c'est moi je me disais toujours, mais ça veut dire quoi? Pourquoi Jésus dit à la fin ils se marieront leurs enfants, voilà, ils mangeront, ils boiront, ben voilà, ben on fait tous ça. On fait tous ça, on se marie, on marie nos enfants, on mange, on boit, et puis voilà, ils seront surpris, et puis mais pourquoi? Et parce que vous avez des gens, c'est toute leur vie ça. C'est boulot, dodo, élever les enfants, leur donner à manger, les habiller, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et puis on recommence, et puis c'est tout le temps la même chose. Il n'y a pas de rêve élevé, il n'y a pas d'acte de foi. Ils payent leur loyer comme tout le monde, ils payent leurs impôts comme tout le monde, ils sont gentils à peu près comme tout le monde, ils font comme tout le monde, ils font rien d'exceptionnel, c'est pas exceptionnel, c'est rien du tout. Ils ferment les yeux sur les malheurs du monde, ils vivent dans un univers où rien ne les atteint jamais, parce qu'ils ferment les yeux, ils ne veulent pas voir, la souffrance de ce monde, voilà, ça ne les touche pas, ils prient. Seigneur, donne à manger aux pauvres. Seigneur, permet qu'il n'y ait plus la guerre. Ouais, c'est gentil. Et ils se sentent en sécurité, parce qu'ils n'ont pas de besoin de s'attaquer au défi que rencontrent ceux qui se risquent à dépasser leurs propres limites. Je dis bien besoin. Vous avez des gens qui n'ont pas ce besoin. Il y a des gens qui ont... Mais moi, je suis toujours étonné. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'écouter une chanson de Sylvie Vartan. Ah, je vois que vous ne dormez pas. Il y a des gens qui n'ont pas de besoin. Des gens qui n'ont pas besoin de boire un bon vin rouge ou une bonne coupette de champagne, ils n'ont pas besoin. Des gens, ils n'ont pas besoin de regarder la télé, ça ne les intéresse pas. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas besoin de s'attaquer aux défis que rencontrent ceux qui risquent et qui se risquent à dépasser leurs propres limites pour aller aider les autres. Ces personnes, elles sont sereines. Du moins, elles ont l'air joyeuses, même très supérieures. Moi, ils m'impressionnent, là. Beaucoup, ces gens ont l'air beaucoup. Ils ont l'air... ils sont tellement différents. On dirait qu'ils sont dans un autre monde, maîtres d'une vérité. Mais maîtres d'une vérité, en réalité, pour laquelle ils n'ont jamais fait le moindre geste. Extraordinaire, je veux dire. Mais tout est bien dans la nature. Dieu a créé les lions et il a aussi créé les hyènes. Une hyène, ça mange les restes du lion. Elle est donc nécessaire, la hyène. Il faut des hyènes. Tout est bien dans la nature. On peut en vouloir à personne. On ne peut pas juger personne. Est-ce que ça serait juste de juger une hyène parce qu'elle est une hyène? Non. Est-ce que ça serait juste de juger un lion parce qu'il est un lion et puis qu'il a bouffé la jolie gazelle? Non. C'est pas juste, c'est des cycles, c'est des natures, c'est comme ça. Et puis pensez-y, Moi-même qui vous parle là ce matin, je suis un lion aux yeux de certains et je suis une véritable hyène aux yeux de certains autres. Puis voilà, puis c'est tout. Moi, mais moi, je sais qui je suis. C'est ça qui compte. C'est savoir devant Dieu qui nous sommes. Et moi, ce que j'aime, c'est affronter des combats réels. J'aime pas affronter des batailles imaginaires. Beaucoup de ces gens qui ferment les yeux sur les réalités du monde, quand même, ils savent plus ou moins ce qui se passe, enfin plus que moi, parce que maintenant on est informé de partout, on ne peut pas faire autrement que de savoir. Alors dans le silence de leur nuit, ils sont là face à leurs rêves non réalisés, aux injustices qu'ils ont fait semblant de ne pas voir. Ils sont là face au moment de leur lâcheté qu'ils ont réussi à dissimuler à tous et peut-être même à eux-mêmes. Et puis ils affrontent aussi leurs amours imaginaires, leurs amitiés imaginaires, l'amour de Dieu qui a croisé leur chemin par l'intermédiaire d'un envoyé peut-être bien imparfait, mais d'un envoyé de Dieu quand même. Ils affrontent cet amour et ils y pensent là dans leur nuit froide, cet amour que la main de Dieu leur destinait, mais qu'ils n'ont pas eu le courage d'aborder parce que c'était trop dur, parce que c'était trop cher, parce que ceci ou parce que cela. Comme le jeune homme riche. Alors, mes frères et sœurs, ne soyez pas comme ça. Qui que vous soyez, dans l'état où vous êtes aujourd'hui, qui que vous soyez, ne soyez pas comme ça. Parce que malheur à ceux qui n'ont jamais été vaincus. Ils ne seront jamais vainqueurs dans cette vie. Vous comprenez la nuance, vous comprenez la subtilité de la phrase. Et dites pas, oh Michel, tu n'as pas le droit de dire malheur. Ah, si j'ai le droit. Jésus disait malheur à ceci, malheur à cela. Malheur à celui qui n'a jamais été vaincu parce qu'il ne sera jamais vainqueur. Vous voyez, mes frères et sœurs, je vous parle à vous qui êtes à la chapelle ce matin et je parle aussi à tous nos bien-aimés qui viennent écouter mes enseignements sur Révélation Bible. Et je parle librement parce que je sais que vous êtes venus écouter avec un esprit d'amour. Parce que vous savez très bien que mes prédications, on ne peut pas les comprendre si on n'a pas un esprit d'amour. Ceux qui n'aiment pas ne comprendront pas que je leur tends encore une main d'amour. Et d'ailleurs, ceux qui n'aiment pas ce ministère, ils n'écouteront pas ce message. Donc c'est, voilà, que voulez-vous que j'y fasse? Mais je sais que si vous êtes venus écouter, c'est parce que vous nous aimez. Vous ne serez pas comme ces disciples qui murmuraient entre eux et un jour, ils ont dit à Jésus, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jean 6, 60, vous vous rendez compte? Il était 12 pelés, et là, ils trouvaient moyen de murmurer entre eux contre ce que Jésus disait. Ah, rien de nouveau sous le soleil. Alors maintenant, sachez-le, répétez-vous les choses. Sachez-le et répétez-vous cette chose. Dieu fait tout à merveille. Personne ne peut revenir en arrière, mais tout le monde peut aller de l'avant. C'est une certitude. Et aller de l'avant, c'est pas aller de l'avant selon le monde. Aller de l'avant, c'est redevenir comme un enfant. C'est curieux, n'est-ce pas? C'est pourquoi je vous ai lu ce texte au début, qu'il fallait que nous devenions comme des enfants. Alors si vous acceptez de redevenir comme un enfant, qui quand il a fait une bêtise, va vers son papa, sa maman, dit « Papa, je fais une bêtise. » Eh bien, il sait qu'il va être pardonné, il va peut-être recevoir une claque, mais bon. Et demain, quand le soleil se lèvera de nouveau, en Normandie, est-ce qu'il va se lever le soleil demain? Si quand même il se lève, mais on ne le voit pas. Enfin, demain, quand le soleil se lèvera, décidez de vivre chaque heure de votre journée comme une surprise. Comme une surprise constante pour vous. Quand j'étais gamin, on allait à la boulangerie chez Madame Bigley-Meyer, ma chèvre. Elle avait ce qu'on appelait des surprises. C'est-à-dire, c'était des espèces de cornets en papier, un peu brillants, très jolis. Il y avait des bleus, des jaunes. Et ça mesurait à peu près 30 cm comme ça. Puis par dedans, il y avait des bonbons, toutes sortes. Puis il y avait une surprise. C'était un petit peu les prémices des Kinder. Vous savez, les chocolats Kinder. Il y avait un petit jouet, il y avait une petite babiole et tout. On appelait ça une surprise. Eh bien, il faut que demain, quand vous vous levez, il faut que vous regardiez toute cette journée, chaque heure, que vous vous attendiez à une surprise, à une bonne surprise. Vous n'êtes pas seulement ce que votre père et votre mère ont fait. Vous n'êtes pas que ça. Vous êtes ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Si vous voulez que ça devienne mieux, redevenez un enfant. La différence entre celui qui marche avec Dieu en étant un enfant et puis les autres, c'est que celui qui marche avec Dieu en étant un enfant, soudain, il oublie ce qu'il a vécu. Regardez Timothée, mon petit-fils. Il fait une bêtise, on le gronde, mais deux minutes après, il est dans vos bras, puis on rigole. Il n'est pas rancunier pour deux ronds, hein, mon petit chéri. Il a son gros bonnet de ski sur la tête. Il oublie ce qu'il a vécu là, qui était désagréable. Et il redécouvre les choses, il redécouvre toujours. Il est toujours dans l'émerveillement de la bonté de son papa, de sa maman, de sa mamie, de son papy, des frères et sœurs, de Potter et tout ça. Potter, c'est le chien, pour ceux qui ne connaissent pas. Il est toujours dans l'émerveillement, c'est ça être un enfant. Et même si demain devait être le dernier jour pour vous sur la terre, vous en profiterez parce que ainsi, vous l'aurez vécu avec l'innocence d'un enfant. C'est ça qui est beau. Et vous ferez tout comme si c'était la première fois. Mon autre petit-fils, Lucas, est allé faire un stage très important dans une des plus grosses boîtes du monde. Et il est revenu avec son papa, c'était hier, et il nous a raconté, eh bien, il a fait des tas de choses pour la première fois. Pour la première fois, il a rencontré au moins 10 hommes au mètre carré, non, peut-être pas au mètre carré, intelligents au mètre carré, c'est-à-dire qu'il n'y avait que des gens intelligents, des gens instruits, des gens bien éduqués, des gens magnifiques, qui étaient ouverts, qui lui parlaient, qui le traitaient comme un adulte. Pour lui, c'était une expérience extraordinaire. Il a manipulé des machines que même des grands savants ne peuvent pas toucher, parce qu'il n'y en a, paraît-il, que 5 au monde. Et ben lui, il a manipulé, il a touché tout ça. Il s'est émerveillé. Et il a fait tout ça pour la première fois. Est-ce que tu as ressenti là? Il faut que tous les jours, tu regardes la vie comme ça. Comme si c'était les choses que tu vas à l'école ou n'importe quoi. Comme si c'était la première fois. Comme si c'était pour apprendre quelque chose de nouveau. Comme tu vas fouiller dans le paquet pour la surprise, pour trouver le truc nouveau. Quelque chose qui va te donner un moment de joie, quelque chose de beau. Voilà ce que c'est que de redevenir un enfant aussi. C'est pas qu'être innocent, c'est être tout cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus de m'aider à trouver toujours encore quelque chose à dire à mes frères et sœurs. Je te prie que tu bénisses ceux qui écoutent et que tu leur donnes un bon cœur pour qu'ils comprennent que leur problème, bon, c'est vrai, c'est grave. Mais ce n'est pas la fin. Il y a encore un avenir avec toi. Je te remercie, Seigneur, de montrer à chacun et chacune, vraiment à chacun et chacune, que je les aime et que je veux leur bien, dans le nom de Jésus. Amen.